ou ne pas nous condamner les autres si nous laissons l'Esprit diriger notre vie. Donc, au verset 1 de notre texte, nous lisons « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » Bien sûr, en ayant donné notre vie à Christ, nous devenons un homme nouveau. Mais nous avons toujours en nous le reste de la vieille nature pécheresse. Peut-être surpris en quelque faute. Cela arrive. Nous sommes des enfants de Dieu, rachetés et habilités par l'Esprit Saint, oui, mais nous n'en demeurons pas moins aux prises avec notre nature pécheresse. Le fait que nous soyons membres de la famille de Dieu ne nous empêche pas de tomber, de chuter, d'être surpris en quelque faute. L'apôtre Paul est réaliste. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas immunisés contre les chutes. Ils font tout, tôt ou tard, un mauvais pas. Ils ont des défaillances, ils tombent. Si vous croyez immunisé contre tout péché, c'est l'orgueil qui vous étrangle. Un pasteur a dit, les vrais fidèles, ceux qui sont convertis, peuvent être entraînés par la chair, le monde et Satan à des péchés même graves et horribles. Ce que montrent assez les tristes chutes de David, de Pierre et d'autres personnages mentionnés dans l'Écriture. Nous connaissons tous ce qui est arrivé à David, qui a tué Uri pour prendre sa femme. C'est horrible, mais il l'a fait. Cela nous dit que chacun de nous peut faire des fautes graves. Puisqu'il en est ainsi, quand un frère ou une sœur est surpris de quelque faute, qui doit intervenir? Pour faire quoi et comment? Premièrement, qui doit intervenir? Paul dit, vous êtes spirituels. Les spirituels, ce sont ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. Paul parle ici de ceux qui marchent par l'Esprit et qui sont conduits par l'Esprit, ce qui devrait être le cas pour tous les chrétiens. Deuxièmement, quel est le but de l'intervention de ceux qui sont spirituel à l'égard de la personne qui a succombé à la tentation et commis une faute? Paul nous dit, redressez-le. Le mot grec qui est utilisé pour redresser peut signifier réparer-le, guérissez-le, ramenez-le à son ancienne condition de santé ou de vérité. Restaurez-le. Mettez-le en ordre. Rétablissez-le dans sa condition première dans laquelle il était avant de tomber. Remettez-le sur pied. Évidemment, la parole de Dieu jouera un rôle clé dans ce processus. Rappelons-nous de 2 Timothée 3, verset 16. De Timothée 3, verset 16, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Les chrétiens spirituels interviennent donc pour redresser le fautif. Troisièmement, comment redresser? Paul dit « Avec un esprit de douceur ». Le chrétien spirituel est conduit par l'Esprit. Nous voyons dans le verset 22 du chapitre 5 que le fruit de l'Esprit est douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. L'Esprit Saint peut nous en rendre capables. Laissés à nous-mêmes, nous n'avons pas toujours envie d'y aller avec douceur. Particulièrement si la faute de la personne vient brouiller quelque chose dans notre vie. Notre première réaction peut alors être la colère, un esprit de jugement et de condamnation. Nous nous enrageons. Nous nous livrons à des bavardages malveillants. Nous avons envie de mépriser la personne dans notre cœur. Toutes ces attitudes sont pécheresses. Il faut les comprendre en nous, il faut les combattre en nous et les vaincre par l'esprit. Nous devons chercher à rétablir le fautif en le remettant dans le droit chemin. La douceur requise naît de la conscience de notre propre faiblesse. C'est ce que Paul écrit dans la deuxième partie du verset 1. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Nous ne devons pas agir envers celui qui est tombé de façon hautaine, avec un sentiment de supériorité, parce que nous savons que la capacité de commettre le péché, quel qu'il soit, se trouve en chacun de nous. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes nous-mêmes des pécheurs en besoin continuel de grâce. Tout chrétien peut tomber. Trop souvent, nous regardons les autres du haut lorsqu'il tombe. Cependant, ce n'est pas ainsi que nous agissons lorsque nous marchons par l'esprit. Nous voulons alors plutôt aider le pécheur avec la même compassion que nous aimons qu'elle nous soit manifestée quand nous-mêmes nous tombons. Que celui qui pense être debout prennent garde de tomber, nous dit 1 Corinthiens 10, verset 12. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, nous dit 1 Pierre 5, verset 8 et 9. Personne n'est à l'abri d'une chute, personne. Un chrétien qui est tombé dans le péché n'a pas besoin d'être écrasé, il a besoin d'être restauré avec douceur. La bonne chose à faire est de l'aider à confesser ses péchés et à trouver le pardon en Jésus-Christ, et ensuite de lui souhaiter à nouveau la bienvenue dans la communion de l'Église. Parce que nous ne sommes pas tous tentés dans les mêmes domaines que la personne qui est tombée. Parfois, nous n'avons pas de sympathie pour elles. Nous devons nous rappeler que nos frères et nos sœurs font face à des types de tentations que nous n'aurons peut-être jamais. Quand nous prenons un caissier dans une entreprise, il a plus de tentations de toucher, de prendre l'argent de la société, puisqu'il manipule tous les jours l'argent. Donc, il est tenté un jour de le prendre. J'étais inspecteur vérificateur du trésor. J'ai eu beaucoup de personnes qui étaient caissiers et qui ont effectivement pris l'argent dans la caisse de leur société. Pourquoi? Parfois, c'est des gens qui gagnent un salaire qui vraiment ne suffit pas pour nourrir la famille. Et ils trouvent les moyens de frauder. J'ai eu un, lui, dans un, c'est la caisse d'un CHU. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y a le quittancier. Quand on paie l'argent, le caissier délivre la quittance. Et le caissier, il écrit, si c'est l'analyse coûte 10 000, il écrit le dernier chiffre 0, très légèrement. Et après, il efface. Et ça devient 1000. Et il empoche les 9000. Il fait comme ça de temps en temps, et comme ça, il a l'argent. Et un jour, je suis allé on m'a envoyé pour vérification. C'est de façon, les caissiers ne savent pas qu'un inspecteur va venir. Je suis allé. Ce que nous faisons, nous comptons d'abord l'argent liquide de la journée. Et nous faisons le point avant d'aller vers les pièces comptables, toutes les écritures qui sont passées durant tout le mois. Et les choses ne tombaient pas bien. Et j'ai glissé ma main parce que je sentais qu'il y a un petit grattage au niveau des chiffres. J'ai passé la main comme ça, c'est rigueux. J'ai dit non, il y a quelque chose. Je suis allé vers la direction pour demander comment on fait avant d'arriver à l'encaissement de la somme. Il m'a indiqué ceci, ceci. Donc, j'ai donné une liste de quittanciers pour qu'ils vérifient les pièces correspondantes, ils cherchent les pièces correspondantes et qu'ils me gardent. Le lendemain, je viendrai pour suivre le contrôle. Eux-mêmes, ils ont découvert que par moment, le caissier a pris beaucoup d'argent comme ça, dans l'espace du temps. Donc, on n'est plus tenté quand on est en face d'une situation. Quand on n'est pas en face de cette situation-là, on pense que on ne peut pas commettre des erreurs comme ça. Mais j'ai vu des gens sincères qui ont quand même commis des fautes graves parce qu'ils sont dans la situation où ton enfant est en train de pleurer. Il n'a pas trouvé l'argent aujourd'hui pour telle chose, ou bien on l'a renvoyé de l'école parce que ils n'ont pas payé des frais scolaires. Tu peux être tenté. Tout le monde peut être tenté. Donc, nous ne connaissons pas toujours les conditions des tentations des uns et des autres. Donc, nous devons toujours chercher à aider notre frère à nettoyer la vie. Nous devons aider à nettoyer la vie d'un autre frère quand il est dans des problèmes. Aider à nettoyer cette vie-là est une tâche délicate. Il nous faut par-dessus tout éviter tout sentiment de supériorité, sinon nous risquons de faire plus de tort que de bien. Il faut s'y prendre d'une certaine manière. Bon, je veux dire que toutes ces personnes-là, je les ai aidées à ne pas aller en prison. J'ai demandé simplement à la direction et à mon chef que nous allons les obliger à reverser les sommes qu'ils ont prises et j'ai recommandé qu'on ne les mette pas en prison, mais qu'on les relève du poste. Et c'est ce qui a été fait. Au verset 2 du texte que nous avons lu, Paul dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Que faisaient les légalistes quand ils surprenaient quelqu'un à pécher? C'est des accusations, des condamnations, lapidation. Nous voyons un exemple en Jean 8 où les Juifs étaient prêts à lapider la femme adultère. Le légaliste est plus dur pour autrui qu'il ne l'est pour lui-même. Le chrétien, conduit par l'esprit, agit tout autrement. Le chrétien, conduit par l'esprit, sera plus exigeant envers lui-même qu'envers les autres. Il aide les autres à porter leur fardeau. Le légaliste n'aime pas porter des fardeaux. Ça ne l'intéresse pas. Au contraire, il alourdit ceux des autres. L'apôtre Pierre demande au légaliste en acte 15, verset 10, pourquoi mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter? Du temps de Jésus, c'était l'un des péchés des pharisiens. Jésus a dit d'eux, ils accumulent des prescriptions. Ils les lient ensemble et en font des fardeaux pesants, puis il les charge sur les épaules des autres, mais il ne bougerait même pas un petit doigt pour les aider à les porter. C'est dans Matthieu 23, verset 4 que nous trouvons cela. Rien ne révèle mieux l'iniquité du légalisme que la manière dont le légaliste traite ceux qui ont péché. Quel contraste avec le chrétien rempli de l'esprit qui, lui, aide les autres à porter leur fardeau. Mais de quel fardeau s'agit-il au juste? Une tentation oppressante et persistante est un des fardeaux le plus pesant qui soit pour un chrétien. Prier avec et pour quelqu'un qui vit un tel combat est une manière concrète et pratique de porter les fardeaux les uns les autres. Les fardeaux dont Paul parle ici représentent toutes sortes de problèmes et de difficultés. Être surpris dans un péché est un gros fardeau, mais il y en a bien d'autres. Par exemple, la peine, les inquiétudes, le doute, l'échec, la pauvreté, la solitude, la maladie, les difficultés financières, la dépression, les tentations, un mal physique, un désordre mental, une crise familiale, une période de chômage, une oppression démoniaque, les fragilités, les infirmités, les faiblesses de toutes sortes. Nous avons tous des fardeaux et Dieu ne désire pas que nous les portions seuls. Certains essayent de les porter seuls. Ils pensent que c'est un signe de courage de ne pas importuner les autres avec leur fardeau. Une telle attitude n'est pas chrétienne. Cette autosuffisance peut être de l'orgueil. Quelqu'un pourrait objecter ici en disant, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Il faudrait donc aller à Jésus avec nos fardeaux et non pas vers les autres. Le Seigneur est parfaitement capable de porter tous nos fardeaux. Ce serait un signe de faiblesse que de rechercher une aide humaine. Attention, oui, bien sûr, notre plus grand fardeau, c'est-à-dire le fardeau de notre péché et de notre culpabilité, est un fardeau que seul le Fils de Dieu a pu porter. Il a fait à la croix. Là se trouve notre salut, notre paix et notre repos. On pourrait alors dire, puisqu'il a porté le plus grand fardeau qui soit, il est sûrement en mesure de porter nos fardeaux plus légers. Dieu a les épaules assez larges pour porter tous nos fardeaux. Ceci étant dit, il reste que souvent, la façon dont le Seigneur nous décharge de nos fardeaux, c'est en envoyant un frère ou une sœur dans la foi pour nous aider. Un exemple frappant de ce principe nous est donné dans le ministère de l'apôtre Paul lui-même. À un stade de sa vie, Paul était accablé d'un lourd fardeau. Il était terriblement inquiet concernant l'Église de Corinthe, en particulier concernant leur réaction à une lettre qu'il leur avait écrite. En proie à l'anxiété, son esprit ne connaissait aucun repos. Il écrit, « Nous avons connu toutes sortes de détresses, conflits au dehors, craintes au dedans. Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. » C'est dans 2 Corinthiens 7, versets 5 à 6. Vous voyez que la consolation divine n'a pas été accordée à Paul par le fait qu'il ait prié tout seul dans son coin, mais au moyen de la présence d'un frère qui lui a apporté la consolation. La compassion des frères et des sœurs qui aident à porter les fardeaux les uns des autres fait partie du bon plan de Dieu pour son peuple. Un frère est là pour aider dans la détresse, nous dit Proverbe 17, verset 7. En portant les fardeaux les uns les autres, écrit Paul au verset 2 que nous avons lu, nous accomplissons la loi du Christ. Paul vise concrètement les judaïsants. Les judaïsants cherchaient à imposer aux Galates le fardeau de l'observance de la loi dans le but d'être accepté par Dieu. Paul indique qu'au lieu d'imposer aux autres le fardeau de la loi, il ferait mieux de les aider à porter leur fardeau et ainsi accomplir la loi du Christ. La loi du Christ consiste à s'aimer les uns les autres comme il nous aime. S'aimer les uns les autres nous conduit non pas nécessairement à des actes d'abnégation héroïque, mais au ministère humainement banal et peu spectaculaire qui consiste à porter le fardeau les uns des autres. Un ministère extrêmement important. Pour conclure, Paul dit au verset 3 à 5, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre et alors il trouvera en lui seul et non dans les autres le sujet de se glorifier. Car chacun portera sa propre charge. Ce verset semble indiquer que si nous ne voulons pas porter les fardeaux les uns des autres, c'est parce que nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous abaisser à un tel acte. Ce serait indigne de nous. Mais nous voir de cette façon revient à nous tromper nous-mêmes. En vérité, nous ne sommes nullement des personnes d'exception, mais au contraire, nous ne sommes rien du tout. Cette affirmation est peut-être exagérée, mais le Saint-Esprit a ouvert nos yeux pour que nous nous voyions tels que nous sommes, des rebelles envers Dieu qui nous a créés à son image, ne méritant de sa part rien d'autre que le châtiment éternel. Mais Dieu nous pardonne tout. Quand nous réalisons ce fait et le gardons à l'esprit, alors nous cessons tout de suite de penser que nous sommes meilleurs que les autres et nous ne refusons pas de les servir ni de porter leur fardeau. Descendons de notre piédestal et reconnaissons que nous ne sommes pas meilleurs que ceux que nous aidons. Quelqu'un a raconté que le fameux boxeur Mohamed Ali a un jour refusé de boucler sa ceinture dans un avion. Superman n'a pas besoin de s'attacher dans un avion. Et l'hôtesse de l'air a répondu, Superman n'a pas besoin d'avion. L'importance de soi est détestable chez quiconque, mais chez le croyant, elle est un véritable reniement de l'Évangile. Il est certain que l'enseignement légaliste des judaïsants, qui donne de l'importance aux œuvres de l'homme, est un sol fertile pour la croissance de la justice de soi. Quand nous sommes chrétiens rachetés par Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, nous ne nous comparons pas aux autres, comme Paul dit au verset 4 et 5. Personne ne mérite une seule parole de louange. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus. C'est facile de trouver quelqu'un de plus mauvais que soi, de telle sorte que notre comparaison nous fasse paraître meilleur que nous ne le sommes en réalité. L'amour chrétien nous incite à ne pas mettre en lumière les fautes et les faiblesses des autres, même si cela devait nous faire paraître meilleurs. Chacun portera sa propre charge, dit Paul. Il n'y a pas de contradiction ici entre le verset 2 qui dit de porter les fardeaux les uns les autres et ce verset 5. Nous devons porter les fardeaux des autres lorsqu'ils sont trop lourds à porter pour une seule personne. En revanche, il existe une charge que nous ne pouvons pas partager. C'est notre responsabilité envers Dieu au jour du jugement. En ce jour-là, vous ne pourrez pas porter ma charge et je ne pourrai pas porter la vôtre. Chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Chacun sera jugé d'après ce qui sera trouvé être en lui-même et non pas d'après ce qu'il sera en comparaison des autres. Chacun rendra à Dieu pour lui-même. En conclusion, dans ce passage, nous avons la réponse du Nouveau Testament à la question irresponsable de Caïn qui avait dit « Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Dans Genèse 4, verset 9. « Si quelqu'un est mon frère, oui, je suis son gardien, je dois veiller sur lui par amour et me sentir concerné par son bien-être. Je ne dois ni affirmer ma supériorité imaginaire sur lui et le provoquer, ni éprouver l'amertume à cause de sa supériorité par rapport à moi et l'envier. Au contraire, je dois l'aimer et le servir. S'il est accablé de lourds fardeaux, je dois l'aider à porter ses fardeaux. S'il tombe dans le péché, je dois chercher à le ramener avec douceur. C'est ainsi que la loi d'amour du Christ est accomplie. Amen.